Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une interview avec l'autrice Andrea Rucha Denieuil pour son livre Plume Petite Lumière, paru aux éditions Alice Éditions, et c'est trop chouette. Bonjour Andrea.
Bonjour Juliana.
En 2021, alors que tu allais accoucher prochainement de ton deuxième enfant, il est arrivé un événement extrêmement malheureux dans ta vie. Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, en fait, à 4 mois et demi de grossesse, on m'annonce que ma petite fille a une malformation. Et donc, elle va être... elle va être prise en charge, on va être prise en charge toutes les deux. Mais à 6 mois, elle va naître prématurément avec cette malformation. Elle ne va pas pouvoir vivre, en fait, comme un bébé habituel, voilà, comme la vie est faite normalement.
Donc, elle est morte, Victoria, et tu es partie donc, sur la route de deuil.
Oui, voilà, tout à fait. Donc, elle est née vivante, elle a pas pu survivre à la prématurité et à la malformation. Et en effet, après, c'est le grand vide. Ce que j'ai ressenti, c'était un petit peu comme si j'étais au milieu de ruines, en fait. Vraiment, c'était comme un champ de ruines. Ma vie est en ruine à ce moment-là.
Bien sûr, alors, il y a cette façon de ressentir les choses qui est très particulière et individuelle. Toi, la maman, mais il y a aussi la famille, le papa, la grande sœur. Comment on gère une situation avec sa famille à ce moment-là ?
C'est vrai qu'on fait comme on peut, parce que la première chose, c'est la sidération. Hein, au départ, on se demande est-ce que c'est vraiment à moi que ça arrive ? Comment c'est possible ? Surtout que pour la petite histoire, moi, j'avais vécu la même chose quand j'étais enfant, c'est-à-dire que ma mère a perdu un petit frère après moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, l'histoire qui se répète. Mon mari, il a été très présent, il s'est occupé de tout, pour les papiers, les pompes funèbres, etc., tout ce qu'on ne devrait pas s'occuper pour un bébé, mais voilà, il a été très présent en tant que papa, en tant que mari. Et puis, en effet, cette grande question, comment on va l'annoncer à notre... À la grande sœur. Donc, c'est encore lui qui s'en est chargé. Et puis, ensuite, voilà, il y a le retour à la maison et la vie qui reprend son cours qu'à un an, chaque jour, petit pas par petit pas.
C'est une chose qui reste quand même assez tabou, en fait. Les gens qui souffrent de ce deuil très particulier périnatal, ne courent pas raconter ça autour de soi. On entend très peu parler. Pourquoi ?
C'est une bonne question. Je crois qu'en fait, c'est tellement... déjà, la mort en général est tabou, je pense, dans notre société. Mais on n'envisage pas un bébé qui meurt, en fait. On se dit que ce n'est pas possible. Je crois que ce n'est pas... envisageable par l'esprit humain. Ça l'était pourtant dans notre culture, et puis voilà, la mort faisait partie de la vie.
La mort subite de nourrisson, c'est quelque chose quand même que la presse a un peu relayé à certains moments.
Oui, mais pareil, on n'en entend pas tant que ça parler. Alors, je pense que heureusement, c'est pas si courant que ça, et heureusement. Mais il y a quand même beaucoup de familles concernées en France. Je crois qu'il y a d'une part la... Quand on parle avec les mamans, c'est d'une part la peur que si on en parle, les personnes soient maladroites, de mettre mal à l'aise aussi les autres. On sait que c'est, enfin inconsciemment, on sait que c'est tabou. Donc on a peur aussi de la réaction des autres, on a peur de toucher les autres. En vrai, c'est une réalité, c'est que... l'entourage, les proches ou les voisins ou autres, savent pas trop quoi dire, en fait, face à ça.
Eh bien, il n'y a pas une seule façon de vivre le deuil périnatal, puisque parfois aussi les bébés, ils sont morts à l'intérieur du ventre de leur maman. Ce n'est pas le cas de Victoria. Elle est sortie de ton ventre, elle était vivante et puis elle est décédée. Donc, elle a la figure dans votre livret de famille. C'est aussi quelque chose de particulier parce que ça veut dire que son existence, elle fait partie de votre, bah, de votre vie.
Tout à fait. Ça, c'est vraiment la chose qui est le plus dur à vivre pour les parents. Voilà, le bébé, à partir de 25 semaines ou de 22 semaines, il faut que je revérifie. Mais en fait, figure sur le livret de famille. Et ça, c'est vraiment très important. C'est la reconnaissance, en fait, que ce bébé. De ce parcours, de son existence. Mais je crois que peu importe à quel moment on perd un bébé, à partir du moment où on l'a rêvé, où on l'a porté, où on l'a aimé, dès l'instant où on sait qu'on est enceinte, on vit un deuil de toute façon. Ça, c'est clair.
Alors, pour clore un peu avec la grossesse en elle-même, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement violent. C'est le cocktail hormonal que cela suppose. Beaucoup de mamans, après l'accouchement, vivent le baby blues, etc. Alors, comment on gère une situation comme celle-ci? On n'a plus son ventre, mais on n'a pas non plus son bébé. Et peut-être qu'on a encore les affres du corps biologique qui nous assaille.
Ben, c'est très juste, hein. C'est une période qui est terrible. Voilà, hein. On a, comme tu dis, on a le cocktail hormonal qui est fait pour que toutes les désordres, les petites choses désagréables du postpartum, les douleurs, voilà, le temps que le corps se remette, bah, sont souvent comblées par l'amour, par l'allaitement, par les câlins, par les bercements avec son bébé. Là, on n'a pas ça. Donc c'est un vide qu'il faut absolument remplir. Alors je dirais que de manière générale, il faut entourer, soutenir la maman, accompagner, mais là encore plus. Donc ça va être des massages, une présence, faire des petits plats, des sorties dehors, des marches dans la nature. Il faut pouvoir combler ce vide et aussi donner une place à l'expression du chagrin. Hein, on a souvent peur des émotions. Mais pourtant, c'est nécessaire de pouvoir leur laisser la place de s'exprimer, en fait.
Oh. Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus, avec l'autrice Andrea Rocha Denieuil pour le livre Plume Petite Lumière, paru aux éditions Alice Éditions.
Eh bien, le ton est un ami peut-être bienveillant pour traverser ces moments difficiles et peut-être à un moment donné aussi donner de nouvelles opportunités, transformer les choses que nous avons vécues en d'autres, peut-être plus positive aussi par la suite. Alors, on en parle, on est le 15 octobre, on est à Melès, tu vis ici avec ta famille et c'est aussi la journée mondiale de la sensibilisation de deuil périnatal, l'occasion de fêter, de célébrer Plume, qui est devenue, comment dirais-je, le personnage de ton livre, un livre jeunesse paru aux éditions, Alice Éditions Jeunesse. Récemment, là, donc tout le monde est très content de la parution de ce livre parce qu'il Plume, ce personnage magnifique, eh bien, c'est le bébé qui est venu rendre visite à des parents.
Oui, voilà, tout à fait. Plume, c'est vraiment cette transformation de comment je transforme l'indicible, voilà, l'innommable en quelque chose de poétique, de lumineux. Comment je redonne le sourire à ma fille, à ma grande. Donc c'était hors de question que mon but, c'était voilà, qu'elle pense à sa sœur un jour avec le sourire. Donc j'ai d'abord moi travaillé sur moi dans mon cheminement du deuil. Et puis voilà, est venue très vite cette idée de raconter l'histoire de sa sœur à ma grande pour lui dire, écoute, il y a un sens, il y a des choses qu'elle a vécues, il y a des souvenirs. Et si on imaginait que, quand tu croises une plume par terre, c'est elle qui pense à toi. Voilà, comment on remet de la poésie dans la vie, en fait, après un événement pareil.
Cette toute petite étoile dans le ciel est peut-être ta petite sœur. Plume, la petite lumière, vit dans les cieux avec d'autres aussi. Et puis, elle apporte un petit sac de bonheur. Et à un moment donné, depuis une longue attente, elle est venue ici sur Terre et elle a passé quelque temps dans une famille. Bon, cette façon très jolie de raconter l'histoire qui est la vôtre passe quand même par le prisme de bébé avant tout, alors qu'on aurait pu être tenté de raconter beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de soi-même. Comment s'est fait le choix d'aller vers Plume et non pas de parler des parents?
J'avais envie de me dire comment on trouve du sens. Comment on trouve du sens au départ brutal d'un bébé? Comment quand on perd des fois un grand-parent, des grands-parents, on se dit bah voilà, ils ont vécu toute leur vie, ils ont bien profité, etc. Et on se voilà, comment on explique qu'un bébé reparte aussitôt? Pourquoi? Donc moi, j'aime beaucoup les approches orientales, de la vie, de la mort, de la réincarnation, de choses comme ça. Et je trouvais pas de livre pour expliquer ça. Donc que ce soit une croyance ou juste un outil pour se faire du bien en complément, en parallèle de la vérité, de la réalité, hein, de ce qu'on a vécu. Donc, ma grande, elle a toujours su ce qui s'est passé. Mais j'avais besoin de trouver un sens. Et donc, je raconte l'histoire de Plume qui vient sur Terre parce que elle a un petit sac à remplir elle aussi. Alors il n'est pas aussi gros que les autres, hein, parce que les adultes et tout le monde a un grand sac à remplir parce qu'il y a plein de choses à faire sur Terre. Il faut aimer, goûter, sentir, voir, se baigner, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et Plume, elle a quand même un petit sac. Donc il est tout petit, riquiqui, il est trop mignon, mais il faut qu'elle remplisse. Et donc c'est sa mission et elle vient le remplir.
Avec de bonheur et des souvenirs. C'est un livre très très joli qui a été illustré également par Laura Edon et porté par Coralie Sordo. D'ailleurs, l'histoire de ce livre est assez jolie, hein, puisque le texte existait déjà, mais avant qu'il devienne l'objet que je tiens entre les mains, il y a eu plusieurs étapes.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai écrit donc un texte un peu spontanément. Ça a été assez facile pour moi d'écrire cette histoire que j'avais en tête. Mais après, il fallait l'éditer. Moi, mon rêve, c'était vraiment de lire ce livre-album parce que donc on adore les livres à la maison. On est une médiathèque à la maison. Et du coup, j'avais vraiment ce rêve de lire l'histoire à ma fille. Donc j'ai cherché des éditeurs toute seule, mais sans illustration, c'était compliqué, j'avais pas de retour. Et j'ai eu la chance de poser la question à Alphabule, qui est la librairie de Meulles, et elles m'ont proposé, elles m'ont dit, contacte Coralie Sodo pour voir si elle te suit. Et j'ai envoyé le texte à Coralie, qui a eu un coup de cœur pour le texte, qui m'a dit... J'ai un petit peu... Je lui ai dit, allez, s'il te plaît, aide-moi. Et donc, elle travaille sur les albums jeunesse. Donc, elle m'a aidée à remettre le texte en forme, le simplifier, on va dire, parce que donc il était plus chargé, plus voilà,
avec plus... Trop ambitieux pour la lecture des enfants,
des
déjà.
Des tout petits, voilà. Mmh. Donc, on l'a simplifié. Puis ensuite, elle a proposé le texte à Laura pour l'illustrer, qui a eu aussi un coup de cœur. Et ensuite, on a pu proposer vraiment un projet comme elles savent faire, parce que moi, ce n'est pas mon métier. Hein. Donc là, on a vraiment proposé un projet complet aux éditions Alice, à d'autres éditeurs, mais c'est vraiment eux qui ont eu aussi un coup de cœur pour Plume et qui nous ont dit, on y va, go. Et donc, j'ai découvert... Voilà tout le cheminement de la création d'un livre. Enfin, je me sens vraiment très chanceuse de voir tout le processus comme ça de la naissance d'un livre.
En lisant votre livre, j'ai vraiment le sentiment que c'est comme un petit baume qu'on passe dans le cœur, comme ça, avec beaucoup de douceur pour ceux et celles qui ont peut-être le petit cœur meurtri. Mais c'est bien parce qu'on peut partager, c'est-à-dire que si on est adulte concerné ou pas d'ailleurs, par ce sujet, il y en a un enfant autour de soi qui se pose des questions ou qui est concerné par ce sujet. Il y a moyen quand même de rentrer dans le sujet avec beaucoup de bienveillance.
Oui, c'était vraiment mon souhait. En fait, à l'époque, quand c'est arrivé, Roma, ma fille avait 4 ans et demi. Et du coup, je ne trouvais pas de livre joli. Moi, j'aime bien les choses jolies, j'aime bien, je veux enjoliver la vie. Et donc, ça ne me satisfaisait pas, donc il fallait que je fasse ce livre-là. Et en effet, je suis heureuse que tu dis ça, parce que c'est comme un baume, en effet. Et on attrape ce qu'on a envie d'attraper, ce qui nous fait du bien. Et y a, finalement, c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens, puisque de près ou de loin, on peut y être touché. On peut avoir été soi-même un adulte ou un enfant qui a vécu ça dans son enfance avec ses parents. Donc, c'est un album pour enfants. Mais j'ai déjà beaucoup de retours de parents à qui ça fait beaucoup de bien de lire ce livre aussi.
Et quand tu l'as eu pour la première fois, les premières planches, parce que les dessins, ils sont absolument sublimes, les couleurs aussi, tu t'es dit quoi ? Waouh ! Mon livre, il est trop beau.
Bah oui, puis je remercierai, j'en profite pour remercier beaucoup Coralie et Laura. Mais Laura, elle a fait un travail incroyable, c'est-à-dire que elle a vraiment mis en image ce que j'avais dans la tête. C'était ça que je souhaitais. Je voulais que ça soit lumineux, beau, que ça soit, ça pète en fait, que les images, elles soient waouh quoi. Donc j'ai l'impression d'être dans un rêve depuis le début là avec ce livre, et je me dis waouh, c'est, je suis chanceuse d'avoir Laura comme illustratrice, oui, tout à fait.
Thank you.
termes d'accompagnement, lorsqu'on vit le deuil particulier qui est ce deuil périnatal, est-ce qu'on se sent un peu soutenu par, je ne sais pas, mon entourage aussi professionnel, les médecins? Est-ce qu'il y a une association, des choses? Parce qu'on voit que c'est une journée quand même importante, confidentielle, mais importante.
Mais il y a encore du chemin à faire, hein. C'est vrai que les professionnels, ils sont dans leur rôle, mais il y a beaucoup de professionnels formés, mais il y en a d'autres qui sont moins aussi à l'aise sur le sujet. Donc je pense qu'il y aura il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui se font dans la formation des professionnels. Qu'est-ce qu'on dit dans ces mots-là? Comment on annonce le décès du bébé? Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Et puis il y a des associations, bien sûr. Il y a des associations comme AGAPA, SPAMA, qui permettent d'avoir des groupes de parole. Il y a le réseau Périnatalité 35 aussi, par exemple, qui accompagne. Et puis après, il y a des professionnels, des art-thérapeutes, des thérapeutes. Moi, je suis à titre professionnel yoga doula, donc j'accompagne.
C'est ça, mais alors c'était déjà le cas avant l'événement, en fait. Tu étais déjà dans l'accompagnement des femmes enceintes.
Oui, tout à fait. Mais je me rappelle pendant des années dire « je suis nulle en deuil ». Voilà, donc je n'aurais jamais dû dire ça. Donc maintenant, voilà, j'ai eu une expérience, mais je n'accompagnais pas.
Quand je vois le livre, je me dis « pas si nulle que ça
». Voilà, avant, la vie m'a dit « tiens, voilà, tu vas avoir une formation express ». Mais oui, je n'accompagnais pas avant là-dessus. Maintenant, forcément, j'accompagne, ça me tient à cœur. Mais donc voilà, tout ça, ça va permettre de... C'est important de se faire accompagner parce que tout ce qu'on ne va pas exprimer, il faut vivre son deuil. Et ça ne veut pas dire que vivre son deuil, on pleure 24 heures sur 24. C'est-à-dire que dans une journée, on va se donner ces temps où on va pleurer, où on va... Voilà, on va exprimer toute sa tristesse et il faut être accompagné.
Soyons clairs, il y a quand même aussi des moments, j'imagine, dans ce parcours de deuil où c'est complètement... C'est très difficile de voir d'autres femmes enceintes ou d'avoir des bébés.
Mais bien sûr, on va fuir toutes les situations qui nous rappellent. Oui, moi, pour le coup, c'était mon deuxième enfant. Donc, toutes les femmes qui me disaient « je suis enceinte de mon deuxième » ou « je me disais... » Et puis, quand ça nous arrive... On se dit pourquoi moi ? On se dit tout le monde arrive à faire des bébés, ça a l'air si facile. Je me disais ça a l'air si facile de faire un bébé et nous c'est pas facile puisque bon je vous passe aussi tout le parcours. Il y a des femmes qui font des fausses couches et elles retournent au travail le lendemain. C'est pas possible en fait. Ça il faut que ça change. Il faut que la société se rende compte que la femme est elle fait des choses incroyables, elle porte l'humanité de demain. Et rien que pour ça, il faut l'honorer, en fait. Il faut lui donner ses espaces de soins, de reconnaissance. Voilà.
Alors que le livre vient de sortir en cette année 2025, est-ce qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, ça nous chatouille? Est-ce que ça te chatouille un peu? Est-ce que tu entrevois déjà d'autres possibilités? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui pourraient émerger?
Oui, bien sûr, parce que... Dans ce vécu-là, il y a aussi la grossesse d'après. Comment on vit une grossesse d'après, suspendue pendant 9 mois. Moi, j'ai eu l'impression de sauter dans le vide pendant 9 mois en me disant « Mon Dieu, j'espère que je ne vais pas me ramasser par terre à la fin ». C'est une sacrée expérience. Je salue le courage de toutes ces femmes. Je me dis, on est complètement folle de recommencer. Enfin voilà, on est l'être humain a une grande résilience. Et c'est aussi ce message d'espoir que j'ai envie de porter. Mais oui, j'ai des projets pour la suite parce que y a aussi le petit bébé arc-en-ciel derrière, cet enfant qui vient après l'enfant décédé. Qu'est-ce qu'il porte?
Un bébé arc-en-ciel.
Oui, on dit les bébés arc-en-ciel. On donne ce nom-là. C'est les bébés arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel qui vient après la tempête, en fait, après la pluie, qui vient redonner. De la lumière, de la couleur aussi, à sa manière. Mais il y a tout un sujet là-dessus, parce que cet enfant, il ne doit pas venir comme un pansement, il ne doit pas venir pour remplacer l'autre, il doit avoir son propre chemin. Il a le droit, lui aussi, d'avoir sa propre mission de vie, son propre sac à remplir. Il n'est pas là pour remplir celui des autres. Donc, plein de projets, en effet, après, pour la suite.
Je pose une dernière question. Je ose, mais tu n'es pas obligée de me répondre si tu n'as pas envie. Comment Roma, elle a reçu le livre?
Roma, elle a été très émue. Il faudrait lui demander, mais elle a été très émue de voir le livre. Elle aime beaucoup la première partie de l'histoire, beaucoup moins la fin, forcément. Mais voilà, elle est très contente de ce livre, en effet. Et j'ai hâte d'avoir son sentiment dans quelques années. Avec le recul, est-ce que j'aurais réussi? Je sais que j'ai réussi à lui redonner le sourire. Je sais qu'on a réussi avec mon mari, parce que je ne suis pas toute seule. Et qu'aujourd'hui, elle pense à sa sœur avec le sourire. Donc, pour moi, c'est gagné. Et puis, voilà, j'ai hâte d'avoir son ressenti quand elle sera grande aussi.
Donc, il faut s'accrocher, mais un sourire après un deuil périnatal, c'est possible.
Oui, c'est exactement le message que j'ai envie de transmettre. Et je vais même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureuse, en fait. C'est-à-dire que quand on côtoie la mort, on se dit qu'on a énormément de chances d'être en vie, que chaque instant est précieux et que finalement il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup trop futiles et donc on a envie de vivre encore plus à 1000%.
Merci beaucoup Andrea.
Merci Juliana.
C'est la fin de l'émission Le nombril de Vénus sur Canal B.
Merci de continuer de nous suivre sur Canal B. Le 94 MHz. Excellent week-end à vous. À bientôt. Allez, bisous. Bye.